BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Il est un peu plus de 11h sur BFM Business. Dans un instant, on va parler de l'intervention de la Banque d'Angleterre. On parlera des perspectives de hausse des taux. Et puis, on parlera bien sûr de l'introduction en bourse de Porsche. C'est quand même la grosse info boursière de ce matin. Ça se passe plutôt bien. Et vous allez le voir, la valorisation boursière de Porsche dépasse pratiquement, ou en tout cas frôle celle de sa maison mère, le groupe Volkswagen. On va parler des marchés tout de suite avec Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Un mot peut-être de la tendance. On espérait très tôt ce matin que la clôture à la hausse des marchés américains hier soir allait tirer les indices boursiers vers le haut. Visiblement, ça n'a pas été le cas.
Oui, deux facteurs de stress. Le Royaume-Uni, je crois que vous allez évoquer le sujet, mais effectivement, très vive tension sur le marché obligataire anglais qui a provoqué une sorte de vente panique, notamment chez les fonds de pension et assureurs qui ont dû vendre massivement, colmater les brèches sur des appels de marge suite au mouvement sur le gilt anglais. Et des chiffres d'inflation qui étaient vraiment pas bons en Allemagne. Tous les Landes ont publié leurs chiffres qui étaient quand même très élevés. Je pense notamment à la Rhénanie, on est à plus 10,80. En Bavière, plus 10,2. Donc vous voyez, en Allemagne, l'inflation accélère. Et vous avez aussi la révision des instituts sur la croissance allemande l'année prochaine. Aujourd'hui, on anticipe moins 0,4 sur 2023. Donc clairement, on est en train d'acter la récession en Allemagne.
Du côté des valeurs, d'abord Accor, des relèvements de perspectives bien accueillis, le titre s'envole.
Oui, enfin, puisqu'elle avait été sanctionnée notamment par une note de JP Morgan qui notait sur cette société un côté moins défensif que ses pairs. Or, c'est tout contraire. Effectivement, on a une saison d'été qui était relativement importante. Les guidances ont été relevées dans une fourchette 610-640 millions d'euros. Donc, on est quasiment 20% au-dessus de ce qui était précédemment cité. La stratégie est toujours ce qu'on appelle asset light, vente d'actifs, et notamment une tour que vous connaissez bien, pas loin des bureaux de BFM, c'est la tour Sequana, qui va être vendue à hauteur de 465 millions d'euros. Donc on est toujours dans ce process de désendettement asset light pour Accor, qui lui revêt quand même un caractère défensif. Et on voit notamment certains aujourd'hui sont en train de relever d'ailleurs la perspective sur le titre. Donc voilà, une bonne nouvelle qui fait suite notamment à des notes qui étaient un peu moins positives ces derniers temps, qui avaient pesé sur le titre.
On va parler de Porsche, introduction en bourse, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Capitalisation boursière, 75 milliards d'euros. Ce matin, celle de Volkswagen, la maison mère, est à 84 milliards.
Oui, une réflexion d'ailleurs, parce que Volkswagen aujourd'hui, qui possède toujours Porsche, puisque c'est qu'une cession partielle, finalement vous avez dans Volkswagen quasiment toutes les autres marques gratuites. Donc c'est une bonne réflexion aussi suite à cette IPO de Porsche qui s'est faite effectivement en haute fourchette avec une condition de surallocation qui valorise aujourd'hui le titre à 75 milliards dans un marché extrêmement déprimé. Donc c'est plutôt pas mal. C'est la plus grosse IPO introduction depuis 10 ans en Europe. Donc c'est pour dire l'ampleur de cette information. Je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder quand même Volkswagen, je répète, qui, grâce à cette IPO, va pouvoir redonner à l'actionnaire l'équivalent de 9 milliards, ce qui donnerait un rendement sur Volkswagen l'année prochaine aux alentours de 15%.
Merci beaucoup Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. 11h06, l'actualité économique.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est la réforme des retraites. Emmanuel Macron a tranché et sur la méthode, il temporise. Il est prêt à laisser sa chance à la concertation et veut lancer des discussions avec les partenaires sociaux et les parlementaires jusqu'à Noël au plus tard, avec en ligne de mire une adoption du texte à la mi-mars. La réforme relèvera d'un projet de loi, ce qui permettra de traiter le recul de l'âge de départ, mais aussi la pénibilité, les carrières longues et l'emploi des seniors. Emmanuel Macron qui n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de vote d'une motion de censure contre le gouvernement. La réforme des retraites qui est au cœur d'une journée de mobilisation. Aujourd'hui, plusieurs syndicats appellent à la grève et à manifester partout en France. Ils protestent contre la réforme des retraites et pour le pouvoir d'achat. Au Royaume-Uni, Liz Truss assume, malgré les turbulences financières et l'avertissement du FMI, la première ministre britannique défend ses mesures de soutien à l'économie et ses baisses d'impôts. Un plan évalué entre 100 et 200 milliards de livres. Des décisions difficiles et controversées, mais nécessaires, selon Liz Truss. En Espagne, l'inflation ralentit nettement en septembre. Elle atteint 9% sur un an, après 10,5% en août. C'est grâce à la baisse des prix de l'électricité et des carburants. En Allemagne, l'inflation est attendue en hausse de 8,8% en 2023 et le PIB devrait reculer de 0,4% sur l'année. C'est ce qui ressort des prévisions des principaux instituts économiques publiés aujourd'hui. Une quatrième fuite détectée aujourd'hui sur les gazoducs Nord Stream qui relie la Russie à l'Allemagne en mer Baltique. Bruxelles soupçonne des actes de sabotage. Américains et Russes renvoient la responsabilité. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain sur le sujet à la demande du Kremlin. C'est l'événement du jour sur les marchés, l'IPO de Porsche à Francfort et c'est la plus grosse opération boursière en Europe depuis 10 ans. C'est un succès. Le prix d'introduction a été fixé à 82,50 € par action, ce qui valorise le constructeur à 75 milliards d'euros. Porsche devrait lever plus de 9 milliards, de quoi financer son virage vers l'électrique. Et puis, Renault tiendra son Capital Market Day le 9 novembre. Le constructeur va détailler son projet de création de deux entités, une dédiée à l'électrique et l'autre aux motorisations thermiques, qui sera ouverte aux partenaires extérieurs, de quoi se dégager une marge de manœuvre pour revenir dans la course à l'électrification, Stéphane.
Merci beaucoup, Stéphanie. J'ajoute la Bourse de Paris qui, pour l'instant, est en baisse de 1,48%. Le CAC est à 5 679 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
L'intervention de la Banque d'Angleterre, les perspectives de hausse de taux, notamment de la Banque Centrale Européenne, l'introduction en bourse de Porsche et tout autre sujet que vous voulez rajouter. Vous savez bien que c'est une table ouverte, regard croisé. Eric Lewin, bonjour, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Et Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements chez Vega Investment Managers. Allez, on commence par la Banque d'Angleterre qui nous a beaucoup intéressé hier. Elle a été appelée à la rescousse pour calmer les marchés. Elle a annoncé le lancement d'un programme temporaire d'achat d'obligations britannique. C'est le retour du QI.
Ouais, c'est un espèce de retour du QI. On attendait plutôt une hausse des taux qu'on n'a pas eu. Il faut dire que cette politique économique est un petit peu suicidaire. Je crois que ça représente 1,5% du PIB. Et puis il y a un exemple fâcheux, c'est qu'en 1972, c'est la dernière fois qu'il y avait une politique économique aussi forte en termes de baisse d'impôts. Il y avait une envolée de l'inflation. Et en 76, je crois que la Grande-Bretagne avait fait appel au FMI pour se refinancer parce qu'ils étaient dans un problème compliqué. Donc c'est pour ça que ça inquiète les marchés. Et pourquoi on baisse d'ailleurs sur les marchés aujourd'hui, c'est que quand la Banque d'Angleterre est intervenue hier, on a vu le 10 ans anglais qui est passé de 4,50 à 3,97, donc on s'est dit ouh, on est sorti de l'auberge, et là il remonte à 4,20, donc il y a beaucoup d'inquiétudes et on peut se demander jusqu'à quand, mais ça c'est mon petit mot personnel, la Grande-Bretagne va jouer avec ce jeu suicidaire de continuer une politique ultra-inflationniste alors que la Banque d'Angleterre, elle, se bat pour lutter contre l'inflation. C'est un peu incompréhensible ce type de politique et je pense qu'elle devrait y mettre un terme. On n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment sur les marchés financiers.
Alors, si vous étiez déconnecté depuis le début de la semaine, rappel des faits, c'est la présentation du projet de budget britannique qui a mis le feu aux poudres. Le texte prévoit notamment de grosses baisses d'impôts ainsi qu'un gel du prix de l'énergie pour les particuliers et les entreprises. Le FMI a lancé une mise en garde. Il demande au gouvernement britannique de revoir sa copie car les baisses d'impôts vont augmenter les inégalités, nous dit le FMI. Et en parallèle, le FMI demande de mieux cibler les mesures pour l'énergie, puisqu'en l'état, la mesure coûterait environ 60 milliards de livres pour 6 mois.
Jean-Jacques. Ces mesures ne sont pas financées en plus. C'est-à-dire qu'on laisse courir ce déficit budgétaire abyssal en Grande-Bretagne, avec en plus un déficit des paiements courants qui pourra atteindre 10% l'an prochain. Donc c'est la totale.
Ouais, le tableau n'est pas très brillant. Jean-Jacques Friedman, c'est une humiliation cette déclaration du FMI.
Ah bah oui, d'habitude ça concerne d'autres pays. pour la Grande-Bretagne qui est soi-disant la mère de la finance, c'est vraiment la honte. Oui, il y a beaucoup de contradictions, c'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire que on voit bien, même des banques centrales disent 6 mois ou 1 an après l'inverse de ce qu'elles disaient. Le Parti conservateur anglais, on pouvait avoir l'impression que historiquement, il luttait justement contre des déficits courants. Là, aujourd'hui, il a une politique adverse. On a une politique un pied sur le frein au niveau de la politique monétaire et puis sur l'accélérateur. Tout ça avec l'idée finalement d'un ruissellement, comme si on baissait les impôts derrière tout ça ruissellerait, profiterait à l'économie, etc. Ça, c'est de la contradiction. Peut-être que le seul élément positif à voir au milieu de tout ça, c'est quand même que les banques centrales changent d'avis assez fréquemment. Et là, on voit bien finalement que l'idée comme quoi on peut faire absolument tout et qu'on prend souvent l'analogie avec les années 80, par exemple aux États-Unis, et qu'on pourrait monter les taux sans aucun souci, qu'on oublie complètement les déficits budgétaires importants et que les déficits doivent être financés. Je pense que c'est un coup de semonce, c'est un rappel comme quoi on est dans une situation très différente. Là, ça concerne aussi les fonds de pension qui étaient mis à mal avec cette hausse des taux. Ouais. Et en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a une limite mécanique aujourd'hui aux politiques monétaires, et je pense qu'on reviendra d'ici quelques temps à l'idée que si on fait tout ça, c'est pour empêcher l'inflation à terme, et empêcher l'inflation à terme, c'est pour que les taux plafonnent et rebaissent un peu, parce que les États, ils peuvent pas vivre avec des taux d'intérêt élevés, ce qu'on a toujours su. Et là, il y a tout un discours aujourd'hui qui semble oublié, mais je pense que ce n'est qu'un discours. Les banques centrales ont quand même cette réalité. Donc il y a un rappel puissant de la Grande-Bretagne, et je pense que ça va concerner d'autres banques centrales également.
Eric Lewin, le chancelier de l'Échiquier, dit qu'il ne changera pas une ligne à son projet de budget. La présentation officielle, ce sera le 23 novembre. Vous pensez sincèrement que le gouvernement britannique va pouvoir rester sur cette ligne ?
Tout dépend ce qui se passe sur les marchés. Je pense que s'il y a encore des attaques contre la livre sterling, si il y a encore des attaques contre les taux, si les taux à 10 ans continuent à monter, il y a un moment ou un autre, il pourra pas suivre cette politique. La politique, on le voit, Jean-Jacques l'a dit, c'est que c'est complètement suicidaire ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni.
Donc le juge de paix,
c'est toujours les marchés. On se moque des marchés, mais c'est malheureusement ou heureusement, ce sont les marchés qui font la pluie et le beau temps. On l'a bien vu hier. La banque centrale anglaise a été obligée d'intervenir parce qu'elle se rendait compte que le 10 ans anglais montait trop vite et que les fonds de pension pouvaient être mis en danger. Donc c'est toujours le marché le seul juge à la fin.
Il paraît que les nouveaux billets avec la tête de Charles III vont apparaître en 2024. Qu'est-ce qu'ils vont valoir, ces billets ?
Bon, d'un autre côté, il ne faut pas non plus... Moi j'aime pas trop réagir à chaud, ouais, sur le fait. La Grande-Bretagne reste quand même une grande puissance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais c'est évident que s'ils enlevaient ce plan, tout irait pour le mieux et ça se calmerait un petit peu. Donc, faut pas non plus sombrer dans le pessimisme. C'est comme sur la hausse des taux. On est tous en train d'avoir peur parce que la BCE va augmenter ses taux de 75 points de base la prochaine fois et la Fed également. Mais de quoi on parle? Je veux dire, on est quand même sur des inflations entre les États-Unis et l'Europe entre 8 et 10%. Est-ce que c'est si grave d'avoir des taux aux États-Unis à 4% et des taux en Europe à 2%? Franchement, c'est pas si grave que ça. Après, on peut se demander, est-ce qu'il faut une politique monétaire restrictive étant donné que c'est un choc de l'offre? Ça, c'est un autre débat. Mais faut arrêter non plus de devenir fou avec ces hausses de taux. Les hausses de taux sont nécessaires. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, la BCE a une mission, c'est la stabilité des prix. Mmh. Donc ils sont obligés d'agir en ce sens.
Ça devrait quand même nous amener à réfléchir, Jean-Jacques, si on regarde le service de la dette, il devrait nous coûter l'année prochaine 60 milliards d'euros avec la remontée des taux. Et encore, c'est le scénario moyen. Il y a un scénario du pire qui, je crois, est à 90 milliards.
Oui, mais c'était ce qu'on payait il y a quelques années, parce qu'on avait un déficit réduit par deux, 60%, qui était deux fois inférieur à ça, mais les taux étaient beaucoup plus élevés. Donc finalement, et en plus, on a aujourd'hui beaucoup d'argent à mettre sur la table, notamment pour la transition écologique. Donc on voit bien qu'on peut pas vivre avec ça. S'il fallait monter les taux, c'était pour casser les anticipations d'inflation. Et ça, ce message-là, il a été réussi. Quand on regarde les anticipations d'inflation de 5 ans dans 5 ans, ben on voit bien que ça a diminué. Ça reflorte avec les deux. Donc les ménages, etc., les entreprises ont bien conscience que c'est un problème d'offre. Et donc ça a toujours été la question posée. Est-ce qu'un problème d'offre, on monte les taux alors que ça résout pas le problème, mais on le fait pour un aspect psychologique, pour empêcher les anticipations inflationnistes de se développer. Donc là, cette première partie a fonctionné. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais.
Eric Lewin, la Banque Centrale Européenne va relever ses taux, 75 points de base a priori pour la prochaine réunion. Le gouverneur de la Banque Centrale Finlandaise, Olli Rehn, qui fait partie, je crois, des modérés hein, à la BCE, parlait d'un taux neutre d'ici à Noël, c'est quoi le taux neutre de la BCE? Bon, je crois que Christine Lagarde ne le sait pas non plus. Hein.
Non, mais en fait, on est complètement dans l'expectative. Je vous rappelle quand même que les banquiers centraux, il y a un an, parlaient encore d'une inflation transitoire. Et là, on a peur en se disant que c'est permanent. Mais regardez quand même ce qui se passe en Espagne. C'est intéressant, Stéphanie en parlait tout à l'heure. Vous avez une légère baisse quand même du taux d'inflation. On a quand même le sentiment qu'on a peut-être atteint le pic de l'inflation. Alors, c'est sûr qu'on ne voit pas ça dans les cours boursiers où on est dans une espèce de pessimisme exacerbé. Mais on a le sentiment quand même que ça va mieux du côté de l'inflation, et donc pour peu qu'il y ait une inflation qui ait tendance à diminuer un petit peu, on peut se retrouver avec une situation un petit peu moins critique. C'est pour ça que je reviens, excusez-moi Stéphane, deux minutes au marché financier. Je suis pas sûr qu'actuellement ça soit pas des cours d'achat quand même, parce que quand je vois certaines valorisations, je pense à du Stellantis par exemple, je pense à du Saint-Gobain, je pense même à quelques banques, vous dites franchement que si vous achetez pas entre 5006 et 5007, sauf si vous pensez que Poutine va appuyer sur le bouton nucléaire, mais ça c'est un autre débat, je pense qu'on est à des cours d'achat. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est peut-être en train de voir, allez, à 8 jours près, les plus bas sur les marchés financiers, en tout cas cette année.
Vous êtes d'accord?
Ah oui, on partage cette analyse. C'est-à-dire que on était sous-pondéré depuis le 12 août. On avait fait une tentative, finalement, de rebond avant le chiffre, justement, d'inflation américain, en se disant, tiens, il peut déjà marquer une amélioration. Il ne l'avait pas fait et le marché, finalement, avait remonté un peu. Donc, on était revenu sous-pondéré avec l'idée, finalement, que ce chiffre de l'inflation, il donne la tonalité pour le mois à venir. Donc le prochain chiffre d'inflation américain, qui est dans une quinzaine de jours, il sera déterminant, il sera important, il peut y avoir l'amélioration. Je pense que l'amélioration, elle viendra d'abord du marché américain avant le marché européen, notamment pour la question du change. Autant le change favorise les entreprises européennes, autant aux États-Unis, ils ont ni le problème finalement du gaz, et ils ont un dollar fort qui neutralise complètement la chute dont on ne parle pas beaucoup, mais quand même la chute du pétrole, des commodities, des semi-conducteurs, il y a eu beaucoup de choses. Donc il y a quelques effets du second tour sur les salaires qui s'estompent. Il y avait l'immobilier, mais avec des taux qui ont atteint 6 et quelques sur du mortgage, sur du 30 ans américain. Là aussi, ça se calme au niveau de l'immobilier. Donc on peut avoir une bonne surprise sur le marché américain avant le marché européen. Mais ce qui est important par rapport, je trouve, aux déclarations de la Banque Centrale, on est suiveur au niveau de la Banque Centrale Européenne. On monte nos taux parce que les Américains montent leurs taux et parce qu'on veut pas que notre devise se dévalue trop. Donc même si notre inflation se calmait pas trop, si ça se calme au niveau de l'inflation américaine, eh bien nous, la Banque Centrale Européenne, on arrêtera de monter nos taux.
Vous avez l'air plutôt confiant, il y a quand même beaucoup de questions. Il y a évidemment le risque nucléaire avec la Russie, et puis il y a Nord Stream qui a probablement été saboté. Si on se retrouve sans fourniture de gaz alternatif, parce que l'idée c'était quand même que la Norvège nous fournisse énormément de gaz pour l'hiver prochain, qu'est-ce qu'on fait?
Ah bah c'est exactement le point, vous l'avez soulevé, c'est pas tant le point nucléaire, c'est-à-dire que c'est le fait de pirater ce qui relie la Norvège à l'Allemagne. Et là le marché hyper 10 en effet. Et je trouve que c'est le risque le plus important possible. Donc justement, on n'est pas passé à la surpondération pour ce fait-là, en disant que voilà, c'est quelque chose qui peut amener un peu plus de danger, mais je pense qu'il faut marquer quand même ces niveaux-là. Il y a quelques métriques à avoir en tête, c'est-à-dire qu'on partait de 16 de PE en début d'année, on est à 10,5. Cette année, les résultats, ils vont prendre 15, le marché a perdu 20. Donc cette métrique, elle a vraiment joué. Et on parle d'un PE en anticipant des résultats à plus 3, d'habitude on anticipe plus 10, donc ça sera pas plus 3 bien sûr, ça sera moins 10, moins 15 peut-être, mais même à moins 10, moins 15 ça fait un peu de l'ordre de 12, donc c'est quand même des niveaux de long terme qu'il faut avoir en tête, je crois.
Ouais, juste un mot sur l'inflation des années où je suis d'accord avec Jean-Jacques, c'est quand vous faites l'inflation, la décomposition de l'inflation, immobilier plus prix énergétique, c'est à peu près 50% de l'inflation aux États-Unis. On s'aperçoit que sur les prix énergétiques, il y a une tendance à la baisse légère, et sur l'immobilier, les derniers chiffres d'immobilier montrent qu'il y a une tendance également à une légère baisse des ventes dans l'immobilier.
Donc, parce qu'on sait que les hausses des taux des banques centrales
parce que le taux hypothécaire à 10 ans doit être autour de 7%, il était à 3% il y a 3 mois. Donc on se rend bien compte que ces deux composantes qui représentent 50% ont tendance à baisser. Ce qui veut dire qu'a priori, on peut avoir une inflation aux États-Unis qui tend vers les 6,5-7. Et si vous avez une inflation qui tend vers les 6,5-7 aux États-Unis, le marché américain peut regagner très facilement une dizaine de pourcents parce que finalement, toutes les anticipations ultra-inflationnistes sont mises au banc. Et vous retrouvez avec un marché assez intéressant. Et c'est vrai qu'à Paris, je suis d'accord avec Jean-Jacques, quand vous voyez des boîtes qui se payent 10 fois en moyenne le CAC 40, j'ai pas souvenir d'un CAC 40 qui se paye 10 fois les bénéfices.
Donc on achète quoi? Du Porsche?
Bah écoutez, Porsche, c'est une belle opération, mais il faut savoir raison garder. Ils ont simplement mis 12,5% du capital. C'était sursouscrit par des gros fonds. Je crois qu'il y avait notamment le fonds du Qatar. Et puis Porsche, ça marche parce que c'est dans le luxe. Je vous rappelle quand même que Porsche, c'est entre 12 et 14% de croissance organique. C'est 17% de rentabilité opérationnelle. Maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est quel sera le chemin boursier emprunté par Porsche. Vous avez deux chemins boursiers possibles dans l'automobile de luxe. Le pire, c'était Aston Martin, introduit il y a 4 ans, moins 95% avec quasiment une quasi-faillite et récupéré in extremis. Et puis vous avez le super exemple, c'est Ferrari, introduit je crois en 2015 à $52. Ça vaut $190, mais Ferrari c'est quand même une très belle boîte parce que je vous parlais de Porsche, c'est 17% de rentabilité. Ferrari, c'est 35% de rentabilité. Moi, mon sentiment, c'est que Porsche peut suivre le chemin de Ferrari, même si, à mon avis, je ne crois pas à la même progression stratosphérique, puisque Ferrari, $52, $190.
Belle opération, Porsche.
Oui, belle opération. Après, ce qu'il y a, c'est que déjà, même sur des constructeurs, on parlait tout à l'heure de Stellantis, les marges opérationnelles se rapprochent presque de marges d'industrie de voitures de luxe. Donc je pense qu'il y a justement sur des dossiers comme ça, de voitures plus généralistes, des opportunités à avoir, parce que finalement, dans un marché qui est un peu contraint, eh bien, ils tablent sur les modèles les plus rentables.
Plus généraliste, vous parlez de Porsche ?
De Stellantis, ah, par exemple.
Donc dans l'haut de gamme, quand même.
Voilà, Porsche, oui, hein, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que même sur des entreprises plus généralistes, on a des marges qui autrefois étaient très faibles et qui aujourd'hui arrivent à s'améliorer, parce qu'ils se concentrent sur les modèles les plus rentables.
Mais c'est intéressant aujourd'hui d'investir dans l'automobile. On sait qu'il y a un challenge important, c'est la transition. Les constructeurs sont pas mal engagés, mais on va les recharger comment, nos voitures électriques ?
Ah oui, non mais ça c'est un débat. Je veux dire que on sait très bien que finalement, si on parle des matériaux rares qui en réalité ne le sont pas tellement, mais ça sera extrêmement coûteux, bien sûr. Tout ça est assez
compliqué.
Et polluant, voilà. Non, je pense que si on réfléchit, si on pense que les taux plafonnent, il faut aller vers des business de croissance. C'est-à-dire que parce que on parle quand même, on se dupe pas sur la croissance. C'est-à-dire que on sera en récession l'année prochaine. Donc, quand la croissance est très faible, il faut avoir des sociétés qui ont leur propre croissance autonome. Je dirais, on va pas trop vers les sous-cycliques. Ça peut être de la technologie, ça peut être des énergies renouvelables, ça peut être du luxe, par exemple. Ça, c'est, je pense qu'il faut aller vers ces valorisations. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, la chute du Nasdaq ou ce qui a suivi sur des grandes valeurs de qualité tech européennes, bah, c'est un peu le même mécanisme qu'il y a à avoir. Donc, dans des taux qui plafonnent et qui, on l'espère, vont baisser un peu, c'est des dossiers qui semblent les plus intéressants et prioritaires pour se repositionner.
Ouais, bon, alors, Stellantis, je suis complètement d'accord. C'est vrai que Stellantis, ça vaut 3 fois les bénéfices quand même, hein. PER de 3, donc si on trouve une valeur moins chère, peut-être qu'Arcelor c'est un petit peu moins cher, donc Stellantis me paraît intéressant. Et c'est vrai que dans les techs, prenez par exemple un Dassault Systèmes, je sais pas, ça doit faire moins 35% depuis le début de l'année, rien n'a changé, ils font toujours entre 10 et 12% de croissance, il y a du free cash flow positif tous les ans, il faut quand même une rentabilité entre 33 et 35%, alors c'est vrai que c'était cher, ça valait 40 fois les bénéfices, là c'est revenu sur 25 fois les bénéfices, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à Dassault Systèmes, qui est ultra bien placé sur même l'usine 3.0, sur toute la digitalisation, très présent dans la santé. Donc il y a plein de sociétés comme ça qui ont fortement baissé. Même chose pour Hermès, c'est une société qui a dû baisser entre 25 et 30%. Il y a toujours du pricing power. Même si les prix augmentent, ils arrivent à augmenter les sacs et il y a toujours de la demande. Donc moi je pense qu'il faut, autant sur les small et mid, même si c'est mon terrain de prédilection, je suis un peu dubitatif en ce moment parce qu'on n'a plus de gérants, on n'a pas de volume, on n'a pas de bonnes nouvelles parce que c'est très franco-français. Mais franchement, il y a certains groupes à l'international où on peut y aller les yeux fermés. Je ne dis pas que ça va remonter de 10% demain, mais si une période de 3 à 4 mois, je pense qu'on peut faire des belles plus-values.
Et sur les mid, sans choisir de dossier particulier, on a parlé finalement de la remise à niveau des larges, mais les mid, d'habitude, ont une surcote de 20% à peu près par rapport aux mid. Là, si on regarde secteur par secteur en termes de valo, on est revenu à parité. Donc, il y a eu un double effet avec une sous-performance des mid. Donc, je pense qu'à terme, ça, c'est typiquement aussi des valeurs de croissance. Il y a un intérêt de nouveau à revenir sur la catégorie des mid pour cette raison-là. Ouais.
Une dernière question, il nous reste peu de temps. Est-ce qu'on peut investir sur les valeurs du secteur de l'énergie? D'un côté, le profit, évidemment, tous ces groupes profitent de la hausse des prix de l'énergie. On a vu les résultats de Total et toute la polémique autour. Mais est-ce que la sobriété énergétique, on a vu que Total allait proposer une gratification à ceux qui réduisent leur consommation, est-ce que ça ne va pas quand même gréver une partie des bénéfices?
Il y a ça, et puis il y a le fait que dans les tendances de long terme, l'investissement social responsable, l'ESG, est une notion très importante. Donc je pense que les flux vont se diriger notamment, alors c'est encore plus le cas. Il y a beaucoup plus de dossiers, sans doute aux États-Unis. Donc, il y a des spécialistes là aux États-Unis. Mais je pense que là, peut-être que les valeurs énergétiques, justement, américaines, quand je parle des énergies renouvelables, là, il y a même plus question. Il y a tellement d'argent qui sera mis sur la table que là, on raisonne même plus en disant les taux remontent et ça peut être négatif, etc. Je pense que ça peut être vraiment les nouvelles valeurs tech. Le même phénomène. Donc, je pense qu'à court terme, on pouvait jouer cet élément du pétrole et autres, et on voit vraiment qu'il y a des surprises, parce que par rapport à ce qu'on pouvait dire il y a quelques temps, bah, le pétrole a baissé. Mais sur les énergies renouvelables, il y a une vraie tendance de fond. Ça, c'est indéniable.
Eric Lewin, à la bourse au quotidien, on achète ou on n'achète pas le secteur de l'énergie ?
Le secteur de l'énergie, pour jouer les grosses boîtes, c'est Total et Engie. Sinon, si on veut s'intéresser à la transition énergétique, c'est racheter des petites boîtes, des Voltalia, des Enertime, des Enodja qui sont plutôt sur des purs business. Mais vous voyez que le secteur intéresse, parce qu'il y a quelques semaines, il ne vous a pas échappé que KKR, qui est le gros fonds américain, avait lancé une opération sur Albioma. On est dans la biomasse avec une prime conséquente, donc à mon avis, tout ça va se concentrer. Je pense que Total, qui doit dépenser 10 milliards d'euros d'investissement, va regarder les petites boîtes. Maintenant, sur les petites boîtes, la grande problématique, c'est qu'il faut beaucoup d'investissement et elles sont en perte pour bon nombre d'entre elles. Donc il faut vraiment séparer le bon grain de l'ivraie dans ce secteur.
Merci beaucoup à tous les deux pour cette conversation intéressante. Eric Lewin, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements chez Vega Investment Managers. On marque une pause. Dans un instant, retour à la Bourse de Paris, ce sera avec Jean-Louis Cussac, trader et formateur chez Perceval. Et puis on parlera d'investissement responsable. Ce sera sur le green tout à l'heure à 11h35. Restez avec nous.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Stéphane Pedrazzi.
2h30 de cotation à la Bourse de Paris, le CAC est toujours dans le rouge, mais la situation s'améliore un tout petit peu. On perd 1,2%, on perdait un peu plus il y a encore une demi-heure, 5695 points. On va justement faire le point sur cette séance avec Jean-Louis Cussac, trader, formateur chez Perceval Finance. Rebonjour Jean-Louis, est-ce qu'on peut espérer avoir touché un point bas sur le marché ? Est-ce que ça peut être un point d'entrée ?
Bah pour moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais envisagé potentiellement 5 620, 15, vous voyez, c'est assez précis. Mais pourquoi pas? Ce qui est intéressant, c'est de constater que, il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais, donc il n'y a pas une vraie conviction vendeuse. Surtout, si vous voulez, ça s'additionne avec ce qu'on avait observé par le passé, là, récent, notamment début de semaine dernière, etc., et cela depuis quelque temps. Parfois, on avait ouvert avec des gaps à la baisse, donc des moments extrêmement tendus, et au lieu de baisser comme on le faisait auparavant, dans des circonstances de, pas de sell-off, mais il y avait plutôt des vendeurs et pas d'acheteurs, et que la spéculation a été fragilisée sur notamment les ventes de put et des choses comme ça, eh bien, au lieu que ça parte en baisse, on faisait un gap à la baisse et on reprenait 2%. Waouh, il y avait de quoi se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça remonte de 2 alors qu'on partait avec un gap à la baisse, c'est-à-dire en dessous du plus bas de la veille ? Donc ça, c'est parce que, justement, il n'y avait pas de vraie conviction vendeuse de la part des acteurs du marché. Encore une fois, pourquoi il n'y a pas de vraie conviction vendeuse ? Parce que les gérants sont quand même pas stupides, bien évidemment. Et je vous disais, ils sont parfaitement conscients des enjeux. Donc, ils ont pris leurs précautions, ils ont des liquidités, et parfois, il est bien évident qu'ils sont tentés d'acheter. Il y a des valeurs pour lesquelles ils auront probablement raison à un horizon d'un an, 2 ans, 3 ans. Le fait est que parfois, derrière leurs achats, et j'en discute souvent avec pas mal de gérants, ils me disent, mais c'est quoi ce truc? On achète une valeur, vraiment, on a étudié de très près, elle perd 20 ou 30%, mais ils sont un peu désespérés parce qu'ils ont quand même fait très attention, ils ont sélectionné, et derrière, elle s'écroule, voyez-vous. Donc, trouver des points bas, c'est difficile sur des valeurs, c'est plus facile sur des indices, parce que là, on parle de 40 valeurs, et puis surtout des 5-10 plus grosses valeurs françaises dans le CAC 40. Et là, c'est vrai que les niveaux sont plus... les valeurs ont quand même des repères que l'on peut trouver plus facilement sur le plan même fondamental, je parle, bien sûr, et sur le plan technique aussi. Donc, est-ce qu'on a touché ? Oui, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il n'y a pas d'emballement, il n'y a pas de sell-off, il n'y a pas... Et c'est ça qui est important, c'est d'analyser la construction du marché. Est-ce que ce marché est potentiellement face à des effets dominos ? Est-ce que ces effets dominos peuvent apparaître comme on a connu en d'autres circonstances? Et je vous disais, la réponse est non. Et ça, ça fait un bout de temps que c'est non. Ça n'empêche pas qu'il baisse. Mais il baisse sans, justement, cet effet domino qui nous amène, comme ça, sur 200 points de baisse, et le lendemain, ça repère 100 points, et le lendemain, ça repère 100 points. Vous voyez, il n'y a pas ça. On voit. On est passé, on est allé à 6000, on est remonté à 6004, on est revenu à 5007, et on peut très bien revenir à 6100, pourquoi pas. Donc, on voit bien qu'il y a des acteurs qui gardent espoir, qui sont prêts à reprendre espoir. On est très influencé, encore une fois, on a une très grande sensibilité au taux souverain. Les choses peuvent basculer pour pas grand-chose. Parce que, je vous dis, il y a une grosse anticipation de la situation. La mauvaise surprise, la dernière mauvaise surprise, parce qu'il faut des, catalyseurs. OK, c'est le sabotage du pipeline de gaz.
Là, Jean-Louis, justement,
oui, dans la journée, on est remonté, etc.
Sur ce sujet, est-ce que vous avez l'impression que le marché a mesuré tous les risques s'il y a d'autres sabotages et qu'on perd notre approvisionnement de gaz alternatif, j'ai envie de dire, celui qui devait remplacer une partie du gaz russe? Est-ce que le marché a bien mesuré les conséquences, notamment économiques?
À partir du moment où vous me posez la question, la réponse est oui. Et c'est évident, puisque la surprise, c'est quelque chose qu'on n'a pas imaginé. À partir du moment où la question est posée, ça y est, tout le monde l'a imaginé. Ils pensaient bien qu'ils ont imaginé d'autres choses, que quand même, sont des gens qui font leur job d'anticiper des situations défavorables. Et donc, ils ont listé vous vous souvenez, quand souvent on parlait des signes noirs, etc., c'est d'envisager des situations extrêmes. Et qu'est-ce qu'on fait en tant que gérant dans des situations extrêmes quand les marchés sont soumis à des choses improbables, mais qui arrivent? Même ça, les gens l'envisagent dans la gestion de fonds, etc. Tout est envisagé, c'est normal, c'est un comportement tout à fait normal. Donc là, c'est pour ça que ce marché résiste, et potentiellement, oui, en effet, vous avez raison, il peut tenir sur des niveaux comme ça, c'est possible. Alors que on a quand même un manque de visibilité flagrant, on a une situation dans la zone euro qui est catastrophique, et on le voit avec l'euro-dollar, l'euro qui s'enfonce, on a des perspectives économiques extrêmement complexes, on a donc ce manque de visibilité, etc., 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 et les marchés sont pas si mal dans un environnement extrêmement grave. La guerre est aux portes de l'Europe, la guerre nous touche directement. Avant la guerre, elle était en Afrique, elle était en Asie, etc. Tout le monde s'en moquait, mais là, elle est à nos portes. Et on est directement impacté. Et les marchés sont à 5007. Ils sont pas à 4000, ils sont à 5007. Vous voyez, et le comportement, il est quand même assez, entre guillemets, résistant, résilient. Et ça peut continuer.
Merci beaucoup pour cette analyse, Jean-Louis Cussac, trader et formateur chez Perceval. On va maintenant parler investissement responsable.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
Et on va parler d'investissement responsable avec Marc Romano, Head of Private Equity Fund chez Mireva. Bonjour Marc.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. On va parler du fonds MEAC, MEAC, je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, il est dédié au private equity à impact et il est désormais accessible à la clientèle privée. Alors, on va voir ce que ça veut dire dans un instant. D'abord, peut-être un rappel du private equity, le principe et ses enjeux.
Alors, le private equity, c'est un terme générique qui décrit tout ce qui est d'investir dans des entreprises non cotées. Donc, ils ne sont pas sur des marchés publics. Et ça va des entreprises très jeunes, très innovantes, au tout début de leur histoire, après des entreprises qui grandissent, jusqu'à des très grandes entreprises qui ne sont jamais sur les marchés. Voilà. Donc, c'est un univers assez large de type d'investissement.
Comment se porte ce marché aujourd'hui?
Alors, il se porte, c'est différencié suivant les stades de développement. Les parties sur les entreprises les plus développées, dans notre jargon, on appelle le buy-out, souffrent un peu de la condition économique, de l'augmentation des taux, etc. Par contre, là où nous, on se positionne, c'est Mireva, qui est la phase d'accélération. MEAC, c'est Mireva Environnement Acceleration Capital. Donc, c'est la phase d'accélération des entreprises. Il y a une très bonne dynamique. Et on reste sur un thème assez porteur.
Comment on investit dans le private equity de manière responsable? Est-ce que ça peut passer justement par ce fonds MEAC?
Ah ben, bien entendu, ça peut passer par ce fonds MEAC, mais je pense que ça passe d'abord par sélectionner un gérant qui a des convictions, qui a des moyens d'analyse pour éviter ce qu'on a communément on appelle le greenwashing, et qui aligne ses intérêts avec l'ensemble de la dimension. Par exemple, si chez Mirova, dans le fonds, on fait une double promesse qui est d'avoir un rendement financier attractif, mais aussi d'avoir un impact environnemental, et la rémunération de notre société est conditionnée à ces deux dimensions. Donc je pense qu'être responsable, c'est d'abord être responsable dans la sélection de ses partenaires pour éviter des aspects purement communication et vraiment avoir quelque chose qui a un réel impact.
Quels sont les outils qui permettent d'être sûr que c'est un investissement vraiment responsable ?
Alors, il y en a plusieurs. Déjà, se poser la question, quel est le reporting ? Quelles sont les informations qui sont données par le gérant ? Qu'est-ce qu'il explique ? Comment il démontre son impact ? Et l'investissement responsable, c'est une intentionnalité, mais c'est aussi la capacité à la mesurer. Et ensuite, il y a des outils de place, il y a des labels. Nous sommes labellisés par le label Greenfin, qui est assez exigeant, donc c'est un bon moyen pour l'épargnant de sélectionner. Et puis après, il y a la classification, les fameux SFDR, 5, 6, 8, 9. Le 9, qui est le plus exigeant, qui demande d'avoir un vrai engagement, je pense que c'est un bon garant d'investissement responsable.
Est-ce qu'il y a des points particuliers à surveiller avant de se lancer, des précautions ?
Alors, ça reste un investissement en action. Donc, je pense que il faut être attentif. Ce n'est pas un produit sans risque. Donc, l'épargnant doit se poser la question est-ce que j'ai bien compris les risques ? Est-ce que j'ai bien compris dans quel type d'entreprise je vais investir ? Sur quel territoire ? Ça demande une certaine prudence. Et en plus, comme nous sommes là pour accompagner les entreprises, on a la chance de ne pas avoir les effets de volatilité que vous évoquiez juste avant mon intervention sur les marchés. Donc, c'est des produits beaucoup plus stables qui se placent dans la durée. Donc, ça, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, que l'épargnant va rester, entre guillemets, bloqué un certain temps dans le produit. Donc, il faut aussi se poser la question d'investir sur du moyen long terme.
Quel rendement est-ce qu'on peut espérer ? On a très longtemps opposé, justement, investissement responsable et rentabilité. C'est plus vrai aujourd'hui ?
Ah non, ça, c'est une histoire qui est vraiment fausse et qu'on peut même retourner. Si vous voulez, je pense que... si on avait eu une discussion dans les années 50, on n'aurait parlé que de performance financière. Dans la fin des années 50, années 60, on invente le risque. Sharpe ratio, ça a été inventé il y a 55 ans, en 67. Et tout le monde a eu l'habitude de discuter risque-rendement. Alors, on découvre juste qu'il y a une autre dimension qui est la dimension non financière qui influe sur la valeur et sur la création de valeur. Donc, il faut choisir. On est passé du plan à l'espace. Il n'y a pas d'opposition. Et par exemple, sur un thème comme l'environnement, cette année, on voit que c'est même l'inverse. Les entreprises dans lesquelles nous sommes investis, qui ont un impact positif sur l'environnement, sont portées par des trends sociétaux très forts, qui nourrissent leur croissance et donc leur valorisation. Vous pouvez même inverser la proposition et dire que l'impact est source de performance financière.
Merci beaucoup Marc Romano d'avoir été en ligne avec nous. Merci pour ces explications, ce décryptage. Head of Private Equity Fund chez Mirova. On va maintenant parler des questions-réponses. On demande régulièrement à nos experts de répondre aux questions que vous nous avez adressées. Je vous rappelle l'adresse bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr si vous aussi vous avez des questions à nous adresser. Christian Fontaine du magazine Le Revenu s'est prêté à l'exercice en début de semaine. Il répondait tout d'abord à une question de Marie-Christine qui se demandait pourquoi il était nécessaire de détenir ses titres Air Liquide au nominatif. Écoutez la réponse.
C'est pédago et bonne question, et avec un potentiel de gain très significatif, puisque Marie-Christine, si vous détenez vos titres Air Liquide au nominatif, potentiellement vous allez pouvoir profiter d'un bonus de 10% au niveau du dividende et d'un bonus de 10% au niveau des distributions d'actions gratuites. Vous savez que Air Liquide, historiquement, ça n'a pas été le cas récemment, mais historiquement, distribue donc une action gratuite pour 10 détenus tous les 2 ans. Alors, parler de pédago, c'est vraiment le sujet, il faut prendre un tout petit peu de hauteur. Vous avez trois, je dirais, modes de détention d'une action. Vous avez au porteur, nominatif administré ou nominatif pur. Au porteur, c'est le cas classique.
C'est le régime commun, en fait.
C'est le régime commun, donc vous détenez vos titres, Air Liquide ou autre, dans votre établissement financier, et c'est via cet établissement financier que vous passez vos ordres et que vous gérez vos titres. Avantage, je dirais, de ce mode de détention, vous connaissez. Limite, c'est que vous ne profitez pas de cette fameuse prime de 10% sur le dividende et les
actions. En gros, on pourrait résumer que vous connaissez l'entreprise, mais que l'entreprise vous connaît pas.
Voilà, c'est bien résumé. Et très concrètement, pour qui? Donc, au porteur, c'est notamment pour tous ceux qui font du trading, qui multiplient les allers-retours. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le nominatif administré. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez demander, et ça se passe souvent en fin d'année, donc c'est une question d'actualité aussi, vous pouvez demander à votre intermédiaire financier de passer du régime du porteur, de convertir vos titres du porteur vers le nominatif administré. Donc dans ces cas-là, vous conservez la gestion de vos titres auprès de votre établissement financier, mais pour rebondir sur votre remarque, l'entreprise sait désormais, connaît votre nom, et vous avez votre nom dans ces listings. Donc l'avantage de ce mode de détention nominatif administré, c'est que vous profitez des primes de fidélité. Les limites, entre guillemets, c'est que pour profiter de la prime de fidélité, il faut conserver ses titres au nominatif administré pendant 2 années civiles pleines. Donc si vous agissez avant la fin de l'année, vous profiterez de la prime que uniquement en 2025. Certains établissements financiers faisant facturer ce service, si vous avez acheté, il faut mieux regrouper. Si vous avez acheté plusieurs fois des titres au cours de l'année, ne faites qu'une seule demande pour passer au nominatif administré. Je dirais que c'est une solution qu'au revenu on aime bien, nominatif administré, parce que ça permet notamment de gérer vos titres dans le cadre de la fiscalité privilégiée du PEA. Bon. Et puis vous avez le nominatif pur. Ouais. Donc dans ces cas-là, vous gérez vos titres auprès du service actionnaire d'Air Liquide en fonction de la facturation proposée par Air Liquide, plutôt compétitive, autour historiquement de mémoire de 0,1% hors taxe de frais de transaction. Et donc là, vous avez un nouvel interlocuteur. Vous profitez de ces fameuses primes de fidélité. L'inconvénient qui n'en est pas vraiment un, mais quand même, c'est que vous ne profitez plus de la fiscalité du PEA, mais vous profitez de la fiscalité du compte-titres. Bon. Donc, l'inconvénient, c'est que l'ensemble des prélèvements fiscaux et sociaux, notamment dividendes et plus-values, passe de 17,2 à 30%. L'avantage, c'est que si vous cédez vos titres dans le cas d'une donation ou d'une transmission, d'une succession à vos enfants ou à vos proches, eh ben vous êtes exonéré de prélèvements sociaux sur l'opération. Et puis vos descendants ou les bénéficiaires de votre générosité conservent l'avantage de la prime de fidélité. Donc le nominatif pur, je dirais, c'est si vous avez fait le plein du nominatif administré, donc si votre PEA est plein en fait, ou si vous envisagez de transmettre vos titres à vos enfants ou petits-enfants.
Et là, vous parlez à chaque fois d'Air Liquide. Tous ces modes de détention sont possibles dans toutes les boîtes.
Il faut Air Liquide, une entreprise particulière, une entreprise préférée par les actionnaires individuels, qui a un vrai
savoir-faire.
C'est au cas par cas. Et notamment, toutes les sociétés n'offrent pas cette fameuse prime de fidélité qui est, dans le cas présent, l'intérêt du nominatif. Par contre, vous avez raison, c'est un sujet sur lequel il faut se préoccuper. Vous voyez, pour gagner plus avec son compte-titre ordinaire, avec son PEA, avec son portefeuille boursier, vous pouvez mieux choisir vos titres, vous pouvez internationaliser vos placements, mais vous pouvez aussi aborder, et on ne le fait pas assez, toutes les questions patrimoniales liées à la détention de votre portefeuille. Et donc, les modes de détention des actions sont un sujet à regarder de près, notamment dans le cadre de cette action.
Voilà, Marie-Christine, pour ces questions liées à ce qu'on appelle donc le nominatif, qui est un des modes de détention des actions. Question d'Amélie, elle nous dit « Je suis une jeune épargnante », elle nous précise qu'elle a 27 ans. « Elle a un PEL, un PEA, bientôt un PEA PME, et sur ces deux derniers, elle a une somme de départ de 1000 euros, et elle se demande comment diversifier au mieux avec une telle somme. Elle voudrait savoir comment investir et dans quoi ?»
Alors, d'abord, bravo à Amélie. Elle est jeune, elle a 27 ans, elle s'intéresse à la bourse, c'est bien, et elle a raison, parce que pour profiter, plus vous commencez tôt à vous à placer en bourse...
Pas que la bourse, il y a le PEL aussi.
Oui, elle s'intéresse notamment à la bourse. Ah, oui. Le PEL, c'est plus classique, mais elle s'intéresse notamment à la bourse, et plus on commence tôt, effectivement, plus on peut profiter, pleinement profiter de la progression de la bourse dans la durée. Alors... Mais elle veut presque trop bien faire lorsqu'on regarde la composition de son patrimoine. Elle a déjà un PEL, donc ça, vous savez, c'est un placement mis en avant par le revenu, même si, je dirais, sa performance, hein, qui est figée dans le temps, est moins intéressante en période d'inflation et de hausse des taux qu'elle n'a été par le passé. C'est plutôt un bon plan. Il manque quand même, notamment pour une jeune épargnante, une famille de placement qui monte en ce moment, parce que les taux progressent, c'est bien sûr tout ce qui les livrets défiscalisés. Très appréciés par les Français. De mémoire, en juillet, le PEL n'a jamais autant collecté cet été. Et tout simplement parce que le taux donc de revalorisation a grimpé à 2%. Mais surtout, lorsqu'on débute sa vie d'épargnant, vous savez, se constituer un patrimoine, c'est un peu comme les étages d'une fusée. Il faut commencer par le bas. Et le bas, c'est l'épargne de précaution placée sur des livrets aujourd'hui défiscalisés, puisqu'ils sont plus rentables que les livrets fiscalisés. Et donc, peut-être que... Amélie, commencez par placer un minimum, l'équivalent de quelques mois de revenus sur ces livrets défiscalisés. On ne peut pas en faire l'impasse. Après ça, vous semblez être une adepte de la multiplication des enveloppes fiscales. PEA, PEA, PEA... PEA et PEA PME. Prudence aussi. Alors, c'est vrai que c'est un vieux conseil patrimonial.
Oui, c'était toujours ouvré pour prendre date.
C'est un peu la tarte à la crème. Et aujourd'hui, le problème, c'est que plus vous avez d'enveloppe fiscale, ben plus vous émiettez, vous répartissez votre épargne et vous ne serez pas forcément gagnant. Vous ne serez pas forcément un épargnant, je dirais, intéressant pour l'établissement financier auprès duquel vous aurez ouvert cette enveloppe. Donc, quelque part, il va vous le faire payer sous forme de frais directs ou indirects. Et le PEA PME n'offre pas beaucoup d'avantages en plus du PEA. Sauf l'avantage principal, c'est d'augmenter l'enveloppe que vous pouvez placer en
cadre fiscal. Oui, parce qu'on précise que toutes les valeurs, ou quasi toutes les valeurs qu'on peut mettre dans un PEA PME, on peut les mettre dans le PEA.
Voilà, tout à fait. La seule
avantage, il y a quelques exceptions.
Vous pouvez placer, de mémoire, c'est 225 000 euros ou 220 000 euros sur un PEA PME, alors que vous ne pouvez placer que 150 000 euros sur un PEA. Donc, premier conseil à Amélie, plutôt qu'ouvrir un PEA PME, mettez quelques centaines d'euros au minimum sur des livrets défiscalisés. Et ensuite, je dirais, n'ouvrez pas de PEA PME. Si vous avez des primes, donc de l'argent qui arrive, versez-le plutôt sur votre PEA. Et pour diversifier avec quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, c'est pas facile. Le revenu recommande plutôt 10 lignes équipondérées avec 1000 euros, peut-être ça peut faire 100 lignes. Dès le départ, il faut penser aussi à internet. Nationaliser le PEA. Voilà. Amélie, vous avez des bons réflexes, il ne faut pas non plus aller trop vite. Attention à ne pas multiplier les enveloppes fiscales, sauf si vous anticipez des rentrées d'argent particulièrement importantes. Sinon, vous risquez quelque part d'être rattrapé par la patrouille. Et en matière financière, la patrouille s'appelle les frais, notamment. Il peut y avoir aussi une patrouille fiscale, mais il peut y avoir une patrouille donc des frais sur les placements. Et donc, trop d'enveloppes entraîne souvent trop de frais. Donc, c'était quelques conseils pratiques pour Amélie.
Question de Lucie, qui a 43 ans et qui pense à sa retraite. Elle se dit qu'elle souhaiterait contracter une assurance vie et elle voudrait des conseils, soit 100% fonds en euros ou un panachage entre du fonds en euros et des UC.
Alors,
déjà, si elle part de zéro, elle aura du mal à mettre que du fonds en euros, a priori, aujourd'hui, non?
Alors, elle peut avoir, accepter de payer des frais rédhibitoires de
2%. Généralement, les assureurs, maintenant, veulent qu'on panache.
Oui, il y a toujours quelques exceptions, mais effectivement. Alors, Derrière la question de Lucie, il y en a deux. D'abord, il y a le choix de l'enveloppe fiscale et ensuite, il y a ce qu'on appelle la répartition, l'allocation d'actifs, pour reprendre une expression des professionnels. C'est-à-dire au sein de l'assurance vie, le choix des fonds. Bon. Là, l'enveloppe assurance vie est parfaitement bien adaptée à l'épargne retraite. C'est un bon complément au plan d'épargne retraite, le PER, dont on parlait tout à l'heure et qui fêtera ses 3 ans le 1er octobre. Donc, bon plan sur l'assurance vie. Lucie, consultez les bancs d'essai du revenu, notamment les trophées d'or du revenu, pour savoir quel contrat choisir. Ensuite, l'assurance vie n'est pas un placement au sens strict du terme, c'est une enveloppe fiscale et au sein de cette enveloppe fiscale, vous choisissez les supports sur lesquels vous voulez mettre votre argent. Elle propose d'être 100% fonds en euros ou avec une dose d'UC. 100% de fonds en euros, on est dans le cadre d'un placement retraite. Donc c'est-à-dire que Lucie, elle a 43 ans, elle a 20 ans devant elle. Le fonds en euros, aujourd'hui, c'est un rendement, certes, c'est un placement sans risque, mais c'est un rendement inférieur à l'inflation. Donc chaque année, si elle place tout sur le fonds en euros, elle va perdre de l'argent, elle va perdre du pouvoir d'achat. Plus votre durée de placement est longue, là elle est très longue, elle est 20 ans, plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques, plus vous devez aller en bourse, plus pour profiter de la tendance haussière de la bourse sur le long terme. Donc bien sûr, elle doit mettre une dose d'UC. Alors, est-ce qu'elle doit appliquer la fameuse stratégie du revenu 60-40? On peut le penser, elle est pas mal, 60% fonds en euros et avec 40% d'UC. Pourquoi je dis que c'est la bonne répartition? Peut-être pour Lucie, mais parce que manifestement elle est comme beaucoup d'épargnantes, elle est frileuse, donc elle ne veut pas placer la totalité en unité de compte. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait sans doute faire à 43 ans. Ensuite, la question qui se pose, c'est quel UC? Alors, je sais bien que on fait beaucoup souvent la promotion des fonds flexibles avec un mix d'actions d'obligations, voire des fonds qui investissent votre argent en immobilier. Hein, deux mots magiques, hein, en épargne, assurance vie, immobilier. Bon, faites les deux et vous pouvez espérer avoir le meilleur de deux mondes. Le revenu, on recommande 60%. On reste fidèle à notre stratégie qui fonctionne. 60% fonds en euros, 40% unité de compte, investi 100% en actions, des produits purs. Au moins, vous savez ce que vous avez. Vous avez le fonds en euros pour la sécurité, le bon coussin amortisseur sympathique, et puis vous avez les unités de compte investies en bourse. Certes, quand les marchés dégringolent, vous voyez fondre votre épargne, mais dès qu'ils rebondissent, vous en profitez intégralement, tandis que si vous investissez sur des fonds mixtes, actions et obligations, c'est moins évident. Puis les taux d'intérêt sont quand même, on peut avoir de remonter des taux d'intérêt, donc tout ça n'est pas très bon pour les fonds obligataires qui ont connu certainement leur pire trimestre, donc alors en début d'année, depuis bon. Bien longtemps. Donc voilà quelques conseils.
Donc Lucie, 60-40, quoi.
Vous avez bien résumé, hein. Ah.
Voilà, c'était Cédric Decoeur pour les questions-réponses avec Christian Fontaine en début de semaine. 11h56, dans un instant, 60 minutes business, ce sera en direct de Strasbourg aujourd'hui. Le Tour de France BFM Business à Strasbourg, une partie de nos émissions délocalisées. Et on va retrouver à partir de midi Sandra Gandoin sur place. Bonjour Sandra.
Bonjour Stéphane.
Quel est le programme aujourd'hui?
Eh bien, le programme, on va parler de beaucoup de choses, beaucoup d'invités dans 60 minutes business. On va parler de taux d'usure, de livret A, de conjoncture avec Daniel Ball du Crédit Mutuel qui est avec nous. On va parler aussi énergie renouvelable, panneaux photovoltaïques avec Triba Énergie qui sera sur ce plateau. Et puis, on va parler d'événementiel, du retour des salons, du retour des touristes aussi et de la gastronomie. Nous aurons Christophe Caillot-Jousse de Strasbourg Event avec nous et le chef Hubert Lépine également qui sera sur ce plateau. Et puis, avec Lorraine, on parlera de franchise avec Michel Kahn. On recrutera également dans la deuxième partie de l'émission. Bref, très beau programme strasbourgeois.
Merci beaucoup Sandra Gandoin. Suivre dans un instant avec, pour ceux qui nous suivent à la télé, de très belles images en direct et dans le ciel de Strasbourg. À suivre donc dans un instant 60 minutes business à 15h. BFM Bourse vous sera présenté par Guillaume Sommerer et évidemment à partir de 18h, Good Evening Business comme tous les jours avec Guillaume Paul et Audrey Tcherkov. Très bonne journée.
C'était votre rendez-vous avec la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, l'Association des professionnels de l'épargne et du patrimoine.
C'était votre programme avec Corum l'épargne, les spécialistes de l'épargne qui vous accompagnent dans vos projets d'avenir. Plus d'informations sur corum.fr.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.